Le pape effectivement a invité les évêques à continuer cette mission qu'ils font jour après jour dans leur diocèse. Et c'est particulièrement visible dans les différents dossiers qui sont traités par l'Assemblée. Je prends par exemple la question des vocations qui a occupé les évêques depuis hier matin. Affermir l'espérance et aborder ce dossier non pas avec une vision qui serait une vision dépressive dans laquelle on aurait une angoisse de l'absence des vocations, mais au contraire avec un élan renouvelé pour un éveil aux vocations en redisant que l'appel aux vocations sacerdotales est nécessaire et que ces vocations s'articulent avec les vocations de tous les baptisés. Mais je pense aussi à d'autres sujets qui seront traités, comme par exemple la pastorale dans le monde rural ou la pastorale en monde ouvrier, qui sont des périphéries. Et le pape François nous invite à y être comme des héros, des planteurs d'espérance. Mais également dans la situation que vit notre pays, nous aurons un temps avec le cardinal Torrent sur le dialogue interreligieux, l'occasion de redire la nécessité du dialogue avec les musulmans. Donc les différents sujets qui sont traités au cours de cette semaine de rencontres spirituelles entre les évêques et de rencontres de travail sont vraiment, je pense, des occasions de manifester une fois encore leur espérance.
Alors justement, on peut peut-être revenir un petit peu sur les thèmes importants. Un des premiers, vous l'avez abordé, c'est celui de la vocation des prêtres diocésains. À moins de 2 ans du prochain synode, justement, sur les vocations et les jeunes, quelles sont les intuitions, quelles sont un peu les lignes directrices qui ont peut-être émergé des discussions que vous avez eues?
Il est sans doute un petit peu tôt pour tirer les conclusions de ce débat. Il me semble qu'il y a plusieurs points cependant qu'on peut souligner. La première, c'est de rappeler l'importance du rôle de l'évêque dans l'éveil de ses vocations sacerdotales et religieuses. Bien souvent, l'évêque est en première ligne dans des diocèses pauvres en prêtres et est une figure facilement identifiable de prêtre. Donc il y a, je crois, un rôle particulier de sa part. Le deuxième, c'est de favoriser les lieux où émergent des vocations. On pense au scoutisme et on pense aux aumôneries, mais on pense aussi à d'autres rassemblements comme les JMJ. Et il y a quelques années, les évêques de France avaient désiré que la pastorale des jeunes soit entièrement vocationnelle. Et donc je crois qu'il est important de favoriser ces lieux et de continuer cela. Troisième point peut-être qui a émergé des discussions, c'est de voir comment aujourd'hui la question du rapport au territoire est une question qui évolue et que les jeunes sont bien plus habitués sans doute à travailler en réseau et que donc la pastorale des vocations doit aussi être une pastorale de réseau. Et puis la dernière chose que je pourrais mentionner, c'est que les évêques ont rappelé que l'ensemble des vocations étaient liées et que appelé au ministère sacerdotal et presbytéral diocésain, c'était aussi rappeler l'importance de l'appel à la vie consacrée, mais c'était aussi rappeler l'importance de l'articulation avec ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles, donc avec l'ensemble des baptisés, puisque les prêtres sont au service du peuple de Dieu.
Alors il me semble qu'il y avait aussi la volonté de ne pas se laisser submerger un peu par l'angoisse de ce qu'on appelle un peu la crise des vocations. Mais comment est-ce que justement on peut faire alors que d'un côté il y a cette question du nombre d'ordinations qui est en baisse et de l'autre côté ce ministère du prêtre qui est parfois vu comme un peu lourd, un peu solitaire, un peu pesant, très administratif aussi.
Les évêques ont souligné qu'il fallait pouvoir permettre aux jeunes de se projeter dans un ministère qui était un ministère épanouissant, mais dans lequel on ne pouvait pas rêver d'une vie qui soit lisse et qui ne soit pas marquée par l'épreuve. Toute vie est difficile. La vie des conjoints, la vie des époux est aussi une vie qui est marquée par les difficultés. Et un jeune qui se prépare au sacerdoce ne peut pas penser que sa vie sera exempte de la croix. Donc c'est le mystère de la croix qui est planté au cœur de la vie et de la vie de tout prêtre aussi. Et je pense qu'il est important de pouvoir soutenir des jeunes dans leur désir de servir l'Église, de suivre le Christ, en ne leur mentant pas sur la réalité de ce qu'ils auront à vivre.
Un autre sujet important, vous l'avez évoqué, c'est la pastorale en monde ouvrier et populaire, mais aussi dans le monde rural. Comment est-ce que l'Église de France peut donner un nouvel élan à sa mission dans ces territoires qui peuvent un peu s'apparenter d'ailleurs à des périphéries en France?
Effectivement, et je crois que ces pastorales, l'annonce de l'Évangile dans ces deux milieux, les mondes ouvriers, les mondes populaires et le monde rural, sont bien des périphéries, c'est-à-dire des lieux où il est important d'être et d'être présent. La mission ouvrière en France fête bientôt ses 60 ans, 60 ans d'une histoire riche, mais on voit comment ce qui a fondé des intuitions il y a 60 ans, a évolué aussi et que la mission s'élargit à d'autres acteurs, elle s'élargit aussi à d'autres univers. Les prêtres ouvriers n'existent presque plus, sont moins nombreux. Le monde ouvrier sociologiquement a beaucoup changé. Il s'agit aujourd'hui d'annoncer l'Évangile dans des quartiers qui sont marqués par la précarité, dans des milieux spécifiques marqués par l'immigration, et que les acteurs sont très divers, qu'il s'agisse d'associations, qu'il s'agisse de communautés religieuses, qu'il s'agisse de personnes qui individuellement essayent d'avoir un impact dans ces territoires ou ces milieux particuliers. Dans le monde rural, les choses sont diverses. Il y a une désertification du monde rural dans notre pays avec une urbanisation forte. Mais il y a un groupe de travail qui vient de s'achever sur le rôle des églises, des bâtiments églises. Et on voit bien comme notre pays est marqué et combien les gens sont encore attachés à la présence des églises dans leur village. Et je pense que des regroupements, des présences locales aussi, des proximités sont nécessaires. Et c'est à tout cela que les évêques vont réfléchir.
Par quoi cela passera-t-il ? Par de nouveaux modèles d'organisation ?
Les évêques, je pense, ont le souci avant tout de voir comment on peut annoncer l'évangile avant d'avoir des soucis d'organisation. Il ne s'agit pas d'être centré sur sa propre organisation, mais de voir comment est-ce que des nouveaux modèles pour annoncer l'évangile peuvent exister. On pense par exemple à des semaines missionnaires qui existent dans un certain nombre de diocèses, à l'itinérance de prêtres de plus en plus fréquente et d'autres initiatives qui peuvent exister dans d'autres lieux.
Lundi, les victimes des abus sexuels seront au cœur de votre prière, à la fois avec une messe dite pour le pardon des péchés commis par les membres de l'Église, mais également par un bilan des mesures prises dans les diocèses ces 6 derniers mois. Qu'en est-il du chemin parcouru et que reste-t-il encore à faire ?
Au mois d'avril dernier, le conseil permanent de la conférence des évêques a annoncé un certain nombre de mesures, au centre desquelles il y avait les victimes, l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des victimes. Et je crois que ce qui a le plus évolué depuis ces 6 mois, c'est cela, c'est la prise en compte de la parole des victimes, ce en quoi les associations de victimes nous ont aidés. Et je pense que beaucoup d'évêques ont eu l'occasion pendant ces derniers mois d'accueillir des victimes et de les écouter. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est important. Ce qu'ils ont fait individuellement dans leur diocèse, ils vont le porter collectivement dans la prière. Et c'était important, je crois, que l'ensemble des évêques réunis à Lourdes puissent vivre ce temps de prière tous ensemble pour les victimes. Et en même temps, il y a encore, bien sûr, du chemin à faire. Et nous avons à travailler, je crois, en lien avec les associations de victimes. Nous avons à développer la prévention et la lutte contre la pédophilie dans l'éducation des acteurs pastoraux et la cellule permanente de lutte contre la pédophilie qui est présidée par Mgr Crépy a tout un programme de formation à destination de ceux qui sont en charge de ces questions dans les diocèses, mais aussi les futurs prêtres, par exemple.
Durant cette assemblée plénière, vous discuterez également de l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia.
Oui, les évêques auront l'occasion d'échanger sur la manière dont ce texte majeur de François a été reçu dans les diocèses et sur ce changement de paradigme, de modèle auquel il invite, c'est-à-dire à permettre d'intégrer, d'accompagner, de discerner au cas par cas avec les personnes et donc certainement un changement assez profond d'attitude en soutenant les familles, en soutenant les couples mariés, mais aussi ceux qui vivent douloureusement une situation particulière.